Eh bien, Madame la Présidente, Messieurs les Premiers Présidents, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous dire combien je suis de participer à ce beau thème de réflexion à un instant qui est celui d'un carrefour de réflexion, d'un carrefour peut-être de jurisprudence également. Et lorsque l'on parle de carrefour, eh bien, on sait que l'on est parfois à un endroit dangereux. Le carrefour, ça peut être le point de choc, mais ça peut être aussi le point de rencontre. Et c'est précisément parce que nous sommes en train de nous poser la question de savoir si nous sommes confrontés à un point de choc ou à un point de rencontre que j'aimerais liminairement, mais en quelques mots, très brièvement, car tout a déjà été dit et remarquablement bien dit, en revenir sur la construction jurisprudentielle de l'Europe. Il est certain que pour dissiper cette impression, au demeurant sujette à inquiétude, que nous pouvons avoir en ce qui concerne la rencontre des droits, qui pourrait être un choc des droits, il convient de se remémorer que l'Europe s'est fondée selon deux démarches parallèles. Celle des droits de l'homme, en 1950, Europe de René Cassin, Europe de la Convention européenne des droits de l'homme, Europe des droits fondamentaux. Europe qui en aucune manière ne pensait à la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, et qui ne pensait pas qu'un jour le procès équitable pourrait amener les uns ou les autres à parler de ce prestataire de service que pourrait éventuellement être l'expert, et peut-être que d'autres mieux que moi auront l'occasion, même certainement mieux que moi, sans aucun doute, auront l'occasion d'y revenir. Plus tard, 1957, la pensée française, car il faut bien dire que la pensée française a été pour beaucoup dans la construction de l'Europe, et les eurosceptiques ou ceux qui rejettent l'Europe ont trop souvent tendance à ne pas le rappeler, la pensée française de Robert Schuman, de Jean Monnet, devait amener à cette Europe de Luxembourg et à cette Europe de la Cour de justice des communautés européennes, aujourd'hui devenue Cour de l'Union européenne, qui devait consacrer, elle aussi, le principe de primauté d'un droit européen sur le droit national, et qui devait consacrer les grandes libertés économiques, liberté de prestation de services, liberté d'établissement, liberté de circulation des marchandises, liberté de circulation des capitaux. Dans cette Europe de Robert Schuman, dans cette Europe de Jean Monnet, nonobstant la très belle déclaration de Robert Schuman de 1950, on ne parlait pas des droits de l'homme. Et ainsi, l'économique et les droits de l'homme paraissaient deux sphères totalement différentes. Or, par le miracle jurisprudentiel, car c'est bien cela, en définitive, par le miracle de la jurisprudence, progressivement, on en est arrivé à une convergence. On en est arrivé à une convergence de telle sorte que l'Europe des droits de l'homme, l'Europe de la Cour de Strasbourg, l'Europe de la Cour européenne des droits de l'homme, a fini par appréhender, au travers de certains des textes de la Convention, article 8, article 2, également article 10, protocole numéro 1 de la Convention, des aspects qui touchaient à l'économique. Alors que parallèlement, l'Europe de Luxembourg, au travers de certaines règles, au travers de certaines situation amenant notamment les agents de la Commission de Bruxelles à procéder à des investigations au sein des entreprises, on est amené à s'occuper de beaucoup plus près des droits de l'homme, de telle sorte que ceux-ci, ces droits fondamentaux, sont devenus au cœur d'une Europe qui était une Europe purement économique du traité de Rome, après toutes les phases successives que nous avons connues de l'acte unique européen, du traité de Maastricht, du traité d'Amsterdam, du traité de Nice et enfin du traité de Lisbonne, cette Europe économique en est devenue une Europe qui a considéré, grâce à la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, qui convergeait dans une certaine mesure vers celle de Strasbourg, qu'il convenait de reconnaître les droits fondamentaux comme étant des principes généraux du droit communautaire. Et c'est bien précisément parce que l'Europe économique a fini par reconnaître ces droits fondamentaux comme étant des principes généraux du droit communautaire, qu'une grande évolution a été concrétisé dans les premiers articles du traité de Lisbonne. Premiers articles du traité de Lisbonne qui sont tout à fait surprenants et dont on n'a pas suffisamment mis en valeur l'importance. Le traité de Lisbonne nous paraît être l'héritier naturel des textes de l'Europe économique. Or, ce traité de Lisbonne met avant toute chose, dans ses propos liminaires, le principe du respect de la dignité humaine comme devant participer de l'Europe économique. Et ce traité de Lisbonne pose également clairement la nécessité de l'adhésion de l'Europe, de l'Union européenne, à la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, la convergence est intervenue. Par conséquent, loin d'avoir deux sphères qui évoluent en parallèle, dans une Europe lointaine du citoyen, l'Europe des hommes et l'Europe économique ont prouvé qu'elles étaient destinées à se rejoindre. Et c'est ça le miracle européen. Et c'est ça que l'on ne met pas suffisamment en avant. Et c'est cela qu'il nous convient chaque jour de rappeler, nous, citoyens européens, car nous sommes citoyens européens et citoyens français, nous avons la double citoyenneté, et nous sommes citoyens d'une Europe des droits de l'homme et d'une Europe qui a vocation, au plan économique, à faire prévaloir les droits de l'homme. Deux textes qui démontrent, s'il fallait le rappeler encore davantage, à quel point cette convergence est importante. Le premier, le propos préliminaire, le titre préliminaire de la Convention européenne des droits de l'homme, qui rappelait que résolu en tant que gouvernement d'État européen, il s'agit de la Convention européenne des droits de l'homme des 47 États membres du Conseil de l'Europe, donc bien au-delà des 27 États membres de l'Union, que résolu en tant que gouvernement d'État européen, animé d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de tradition politique, patrimoine commun d'idéal et de tradition politique, de respect de la liberté et de prééminence du droit, prééminence du droit, j'y reviendrai dans quelques instants, à prendre les mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration universelle, les hautes parties contractantes ont convenu de signer la Convention européenne des droits de l'homme. Nous sommes en 1950, 4 novembre 1950. Parallèlement, article 6 du traité sur l'Union européenne, dans sa dernière version, version de Lisbonne, qui nous dit « Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie de l'Union en tant que principes généraux. Par conséquent, à plus d'un demi-siècle d'intervalle, la jonction est faite. Et nous nous trouvons dans une situation dans laquelle nous ne pouvons plus dissocier l'Europe économique de l'Europe des hommes, et nous devons à chaque instant le rappeler. Alors, me direz-vous, en quoi tout ceci concerne-t-il des experts ? Eh bien, précisément. Eh bien, précisément parce que, tout à l'heure, au cours de ces deux remarquables interventions, l'accent était mis sur la qualification éventuelle, sur la qualification plus qu'éventuelle, puisque on parlait d'un arrêt dont Dominique Lancoux, président du CNCEJ, très certainement ne manquera pas de reparler dans le cadre de ses propos conclusifs, dans lequel la notion de prestataire de service avait été employé par la Cour de Luxembourg s'agissant de l'expert. Cela voudrait-il dire que l'expert est un prestataire de service ? Cela voudrait-il dire que l'expert de justice, mais je ne voudrais surtout pas parler en détail de l'arrêt Penarora, étant entendu qu'il concerne un traducteur et qu'il ne nous appartient pas encore de procéder à des développements tant que la Cour de cassation n'a pas rendu son arrêt à titre définitif. Cela voudrait-il dire qu'il convient d'envisager uniquement la relation de l'expert de justice avec le juge sous l'angle d'une prestation de service qui serait absolument assimilable à la prestation de service de tel ou tel opérateur économique. S'il en était ainsi, ce serait se placer dans une sphère qui serait exclusivement celle du droit économique et qui, en aucun cas, ne ferait allusion aux règles du procès équitable. Car à ce carrefour qui est le nôtre, Quelle question doit-on se poser ? Lorsqu'on est à un carrefour, on cherche son chemin. Chercher son chemin, c'est chercher un but. Or, qu'il s'agisse du droit communautaire ou qu'il s'agisse du droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme, l'un et l'autre sont régis par un principe qui est celui de l'interprétation téléologique, de l'interprétation finaliste. On cherche où on va. Il y a un but recherché, et ce but, il faut l'atteindre. Quel est le but recherché par le juge lorsqu'il désigne un expert ? Le but recherché par le juge lorsqu'il désigne un expert est de toute évidence d'avoir comme éclaireur, d'avoir comme compagnon, comme le disait fort bien le premier président Pierre Drey, un homme de compétence qui réponde à un certain nombre de qualités que la justice est à même d'exiger de lui-même, juge. Qualité d'indépendance, qualité d'impartialité, qualité morale, qualité consistant à avoir une parfaite connaissance des règles du procès, parce que l'expertise au cœur du procès équitable est un moment du procès, est un grand moment du procès dont chacun connaît quelles peuvent être les conséquences. Et si le juge n'a pas affaire à un prestataire, entre guillemets, capable de répondre à ses qualités, c'est la justice tout entière qui risque d'en pâtir. Si le juge désigne un prestataire totalement ignorant des règles du procès équitable, qui va violer le principe du contradictoire, qui va violer le respect des droits de la défense, qui va violer le délai raisonnable, qui ne va pas respecter peut-être l'intimité de la vie privée au cours d'une expertise, ou qui va peut-être se comporter de telle sorte que l'on viendra un jour lui reprocher de ne pas avoir été totalement indépendant, parce qu'il ne connaîtra pas tout simplement les motivations de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les notions d'impartialité et d'indépendance, eh bien, ce sera notre justice tout entière qui en pâtira. Ce sera notre justice tout entière qui en pâtira parce que la décision rendue par le juge au vu d'une expertise inéquitable, ou du moins au vu d'une expertise qui, même si elle a été techniquement intéressante, ne répondra pas aux exigences du procès équitable, fera que la décision rendue à terme par le juge sera une décision qui pourra être sujette à contestation et qui pourra être sujette à condamnation de la France au titre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il convient par conséquent de replacer l'action de l'expert, de replacer l'expert dans le cadre qui est le cadre naturel du procès dans lequel il doit évoluer l'instant d'une mission. Et c'est là que se pose, s'agissant de l'avenir de la jurisprudence en Europe, une question. Devons-nous considérer qu'il faut, selon une interprétation littérale, dire que la prestation de l'expert va être une prestation technique ? Devons-nous, au contraire, selon une interprétation qui resitue l'expertise dans le cadre du procès équitable, nous attacher à cette spécificité de l'expert qui, l'espace d'un instant, devra répondre aux mêmes qualités, hormis celles relatives à sa compétence juridique, bien sûr, que celles du juge. Toute la question est là. Toute la question est là et cette question en amène une autre. Cette question en amène une autre, toujours au regard des risques de condamnation de l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui est celle de l'obligation positive de l'État de former ou de garantir la formation d'experts de nature à rendre à la justice le service que l'on attend d'elle. Car il est certain que l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a de plus en plus souvent mis l'accent sur la notion d'obligation positive des États. On est parti d'une vision qui était la vision de l'effet vertical, considérant que les États n'avaient pas à intervenir et que leurs ingérences, dans certains cas, pouvaient se trouver être l'objet de sanctions au titre de violation de la Convention. Mais progressivement, on a évolué parallèlement vers la mise en évidence de la notion d'obligation positive des États de garantir un certain nombre de droits, de garantir même plus qu'un certain nombre, de garantir les droits et libertés visés par la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'obligation des États de garantir les dispositions de l'article 6, de garantir le respect du droit au procès équitable, passe par l'obligation de l'État de garantir le droit à l'expertise équitable. Et par conséquent, de garantir au justiciable qu'il aura, dans le cours de cette expertise face à lui, un expert qui non seulement sera un homme compétent, mais sera un homme formé aux règles du procès, sera un homme formé à un certain nombre de principes qui sont des principes qui sont ceux mis tous les jours en pratique par le juge. Alors vous voyez que ça aurait bien sûr être question de prétendre anticiper sur quelque jurisprudence que ce soit, mais voyez où le problème se pose aujourd'hui et comment le problème se pose. Et à travers ceci, se pose une dernière question qui est celle qui consiste à savoir s'il faut, de manière irrémédiable, se dire nous avons deux systèmes de droit, l'un de common law, l'autre de droit romano-germanique, dont M. le Président Mattei nous a remarquablement bien exposé quels étaient les enjeux et combien ils pouvaient parfois être différents. La question qui se pose est de savoir si, par-delà tout cela, le moment n'est pas venu de transcender. Le moment n'est pas venu, au nom du procès équitable précisément, de rechercher en commun, à partir de ces règles du procès équitable, et de ces règles du procès équitable très fortement inspirées par la pensée française, incontestablement, car la question d'égalité des armes, ce n'est jamais qu'en une certaine mesure que la traduction du principe du contradictoire, même le rappeler en passant. Se demander si le temps n'est pas venu de déterminer, d'œuvrer pour une déontologie expertale communautaire. Et si ce moment de rencontre n'est pas celui qui doit être celui de la réflexion vers une expertise équitable au service de tous en Europe, dans une Europe qui est celle des 27, mais également celle des 47, puisque il y a 47 États membres parmi les États membres du Conseil de l'Europe, cette Europe qui est celle de Strasbourg. Et si il ne vous appartient pas à tous, et c'est certainement un des mérites de ce congrès, de réfléchir à ce qui pourrait être le tronc commun, à ce que nous pourrions dégager de cette rencontre pour éviter le choc et faire en sorte de conserver l'acquis. Cela peut paraître idéaliste, mais je ne pense pas que ça soit tellement que cela. Pourquoi ? Moi, je me souviens qu'il y a une trentaine d'années de cela, même peut-être un petit peu plus, l'un de ceux qui restera parmi nos très grands bâtonniers, le bâtonnier Albert Brunois, que certains de mes confrères ici présents ont certainement connu, fut le premier à ouvrir l'esprit des jeunes vers l'Europe et vers la formation. Le bâtonnier Albert Brunois avait pris l'initiative de dire « Mais pourquoi ne pas tenter, en dépit des règlements différents des barreaux, car à l'époque nous n'avions pas encore au sein du barreau français un règlement unifié, chaque barreau avait son propre règlement intérieur. Et on était dans une situation qui paraissait tout de même tout à fait paradoxale sur un territoire qui n'est pas celui d'un État fédéral. Bon. Le bâtonnier Albert Brunois avait pris l'initiative de dire « Mais pourquoi ne pas tenter avec d'autres Européens d'aller vers l'élaboration d'un code de déontologie européenne ?» Cela paraissait une idée folle. Et un jour, après maintes consultations, tout le monde s'est réuni à Strasbourg en présence de M. Pflimlin, qui était encore à cette époque vivant, et a été signé le code de déontologie des avocats européens. Et ce code de déontologie des avocats européens a fait que, bien sûr, il ne s'agissait pas du tout d'aller faire en sorte d'abandonner telle ou telle procédure civile ou pénale de tel ou tel pays ou d'aller y adhérer totalement, mais de faire en sorte de dégager des principes communs qui étaient ceux du respect des droits de la défense, qui étaient ceux qui devaient permettre à des confrères en commun d'œuvrer pour être de mon partenaire de justice. Eh bien, je suis tout à fait persuadé que, à l'issue de réunions comme celle d'aujourd'hui, et que vous avez eu l'heureuse initiative de prendre, Madame la Présidente Bernard, nous pourrons peut-être, grâce à nos réflexions communes, aller dans un sens qui permettra de répondre à ce que souhaite l'interprétation téléologique de la Convention européenne des droits de l'homme.
Merci infiniment, maître, de ces belles perspectives.
Il m'a semblé que les propos de Patrick de Fombressin concernaient peut-être plus directement l'expert du juge, c'est-à-dire notre expert de droit continental, que l'expert de parti, que l'expert witness, que l'expert témoin. Et je voudrais savoir s'il se risquerait à faire un pronostic sur les chances des deux systèmes qui apparaîtront un jour nécessairement comme concurrents dans le cadre de la perspective européenne qui nous a tracée.
Merci. Alors, se risquer un pronostic, ça me paraît effectivement la question diabolique. Bon. Mais cela dit, faire en sorte d'œuvrer pour que nous puissions conserver le meilleur, et le meilleur non pas à titre chauvinisme, mais dans l'intérêt de la justice, ça me paraît être une nécessité absolue. Bon, il est bien évident que dans le cadre de l'expertise witness, dans le cadre de l'expertise de parti, on s'aperçoit de plus en plus, et M. le Président Mattei l'a très bien mis en évidence tout à l'heure en rappelant un certain nombre de décisions, que la question de l'impartialité et la question de l'indépendance peut se poser. Bon. Alors, est-il souhaitable pour le juge de se trouver en face d'avis techniques qui ne sont pas des avis clairement indépendants et clairement objectifs ? À partir du moment où, ultérieurement, la Cour européenne des droits de l'homme sera appelée ou est appelée à statuer sur le respect des règles du procès équitable, si on ne peut pas assurer définitivement de l'indépendance et de l'expertise de l'expert, il paraît difficile d'être assuré à terme de du respect de l'indépendance et de l'impartialité de celui-ci et du juge dans toutes les étapes du procès. Alors je crois que c'est à travers cette question de l'indépendance et de l'impartialité au profit de la justice qu'il faut poser la question. Dernier point, il y a quelques jours de cela, une décision extrêmement importante qui a été rendue par la Cour suprême des États-Unis concernant la possibilité de lever l'immunité des experts dans le cadre de cette procédure d'expert witness qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas être attrayés en responsabilité en raison de leur déposition. Ce qui fait qu'il semblerait qu'il y ait une évolution en ce qui concerne la fiabilité qu'il convient d'accorder à un système dans lequel chaque parti aura un expert qui fera davantage figure de défenseur que de technicien au service d'une justice objective.
Merci beaucoup.